Henri Roorda, dit Balthazar, apprendre ou à laisser. Le programme de lecture du professeur d'optimisme. 1919. Partie 5. Le fromage. Lorsqu'on disait à un héros de Dumas père de rendre son épée, il répondait noblement : viens la prendre. On nous a pris notre fromage. Et nous n'avons pas fait le moindre geste défensif. L'âme d'un peuple obéissant a la consistance du fromage mou. Cette veulerie générale est facile à expliquer, parce qu'ils sont éduqués, spécialisés et organisés. Les citoyens d'un même pays sont divisés. Les cordonniers, les médecins, les marchands de fromage, les fonctionnaires, les ramasseurs de hannetons et les musiciens, par exemple, ont des intérêts professionnels qui leur font oublier leurs intérêts communs. Quelques messieurs, préposés à la défense de l'intérêt général, leur disent « Soyez tranquilles, nous nous chargeons de tout ». Et, quand la situation devient tragique, c'est encore un télégramme émanant du bureau central qui apprend à chacun que l'heure du grand sacrifice a sonné. L'individu n'a pas à s'occuper de ça. Ça ne le regarde pas. Voilà ce qui distingue l'homme civilisé de la brute. L'animal, quand il est menacé, défend sa vie. Il défend sa femelle. Il défend ses petits. Il défend sa tanière. Il défend son fromage et son reste de poulet froid. Il est héroïque spontanément, individuellement, pour son compte. Le seul héroïsme permis aux citoyens des États modernes, est l'héroïsme collectif et officiel. Non content de s'occuper de la police, de la voirie, des chemins de fer, des postes et des télégraphes, l'État veut encore régler les plus nobles mouvements de l'âme humaine. Il nous indique les cas où nous devons être courageux et les cas où nous n'avons pas le droit de l'être. Nous n'avons pas le droit de défendre jusqu'à la mort le fromage qui est le fruit de nos veilles. Mais je ne veux pas insister là-dessus, car c'est trop triste. Pour le moment, je ne veux parler que du fromage. On nous a pris notre fromage. Si nous sommes bien sages, chacun de nous en recevra 250 grammes par mois. C'était à peu de choses près la dose qu'il me fallait pour confectionner dans mes heures de mélancolie une petite fondue à une place. Or, je mettais du fromage dans mes macaronis. J'en mettais dans mon risotto. J'en mettais dans mes choux-fleurs. J'en mettais dans mes pommes de terre. J'en mettais dans ma soupe. J'en mettais sur mon pain. J'en mettais dans mes topinambours. J'en mettais dans mes omelettes. J'avais mis énormément de fromage dans ma vie. Et je n'ai pas tout dit. J'ai seulement parlé de mon modeste ordinaire. Modeste, car je ne mangeais pas chaque jour tous les plats mentionnés ci-dessus. Il y avait encore, de temps en temps, après une semaine de dur labeur, le petit boulot du samedi soir avec de bons amis. Ah ! Reviendra-t-il le temps où nous partions pour Sion avec Edmond, Ernest, Benjamin et leurs chères femmes, dans le seul but d'y manger une raclette de valaisanne ? Et pendant combien de mois, combien d'années faudra-t-il être privé de ces inimitables beefsteaks au fromage que prépare Lady R, patronne de la pinte vaudoise? Chez Paul, la fondue était toujours si parfaite qu'elle faisait oublier momentanément les beefsteaks et les raclettes. J'imagine ce que les moralistes pourraient me dire. Mais je ne serais pas assez bête pour leur donner la parole. Ils m'agacent prodigieusement, car ils manquent presque toujours de sincérité. Je sais fort bien ce qu'ils mangent dans les coins. En prétendant que mes plaisirs sont de qualité inférieure et que rien ne vaut les joies de l'esprit, ils font une distinction stupide. Il y a des âmes pauvres qui s'étioleraient si elles ne pouvaient pas fréquemment emprunter de la chaleur aux âmes ardentes. Pour elles, les conférences, les prédications, les lectures et les concerts constituent un aliment spirituel indispensable. Chez les indigents dont je parle, manger est un acte purement physique qui n'a aucune répercussion sur la vie morale. Ils mangent comme mangent les animaux. Mais mon estomac est un alambic où le fromage, la viande, les fruits et le vin se spiritualisent. Je sais par expérience que si je mange de bonnes choses, un chant s'élèvera de mon âme. Je serai alors plein de bienveillance et de confiance, capable d'aimer et d'oser. Les joies de l'esprit, je suis capable de me les procurer moi-même. Mais je ne suis plus capable de faire une fondue si l'on me prend mon fromage. Je vous le prédis, si l'exportateur rapace nous prend encore notre lait, notre viande, notre café, notre vin, notre chocolat, notre lard et nos gâteaux sans farine, nous finirons tous par sombrer dans la plus noire tristesse. Et vous comprendrez alors que Balthazar avait raison. Adieu, fromage. Puisses-tu ne pas revenir trop tard. L'argent. À mon ancien camarade Victor, qui était venu me voir, j'avais posé cette simple question. « Eh bien, quoi de nouveau ?»« Pas pressé, enfoncé dans mon fauteuil numéro 1, Victor m'a fait cette longue réponse. « L'argent ne fait pas le bonheur. Il peut même causer la perte des imbéciles qui ne savent pas s'en servir. » Cela n'empêche pas que mon existence est infiniment plus heureuse depuis le jour où ma vieille tante, qui avait déjà un pied dans la tombe, s'est décidée à y mettre le second en me laissant le million qui, désormais, ne devait plus avoir pour elle aucune valeur. Qu'il soit d'ailleurs bien entendu que je penserai toujours à elle avec un sentiment affectueux. Toute personne d'intelligence moyenne comprendra que je puis maintenant m'accorder des plaisirs dont j'étais privée lorsque, simple employée de la banque cantonale, j'inscrivais du matin au soir, dans un épais registre, de petites, de moyennes et de grosses sommes d'argent appartenant à de sombres brutes que le sort avait injustement favorisées. On peut deviner aussi que je suis logée, habillée et nourrie plus confortablement qu'autrefois. Je ne dédaigne certes pas ce confort nouveau. Pendant bien des années, je devais dire au singulier « mon chapeau, mon pardessus, mon habit noir, ma cravate ». Maintenant, je puis parler de toutes choses au pluriel. Et je songe sans inquiétude à l'accident toujours possible, car on ne supprimera jamais l'accident. La fiente corrosive du pigeon qui vole et de l'esprit grossier qui souffle où il veut. Oui, je me réjouis de ma sécurité. J'en jouis tout particulièrement lorsque je pense à ma lointaine vieillesse. Mais l'argent procure bien d'autres jouissances encore. Albert, le moraliste, m'a dit que je suis comme tout le monde, exposé au chagrin et à la maladie. Que je serais tenté plus qu'un autre de faire des excès et que je connaîtrais bientôt les inconvénients de l'oisiveté. Albert est un raseur. Qui m'oblige d'être un oisif? Chaque jour, je travaille 2 ou 3 heures et je choisis toujours le travail qui m'intéressera le plus. Nous sommes tous menacés par les mêmes maladies. Mais les riches trouvent des remèdes que les pauvres se procurent bien difficilement. Et ils disposent aussi de moyens plus efficaces pour oublier par moments leur chagrin. Quant à mes excès de table, ils sont rares. Ma nourriture ordinaire étant excellente et très variée, je puis me passer de ces festins que je voyais autrefois dans mes rêves. Hier soir, j'ai tout de même fait bombance avec mon ex-collègue, Gustave. Le malheureux avait peut-être la tête un peu lourde ce matin en se rendant à la banque. Moi, je suis restée au lit jusqu'à 11 heures et je me suis levée frais et dispos. S'il m'arrivait un jour de me réveiller avec cette terrible gueule linéa dont parle Hippocrate, personne n'en saurait rien. Il y a des fautes qu'un rentier peut commettre impunément. Aujourd'hui, tout s'achète, tout se vend. Les admirables concerts que j'ai entendus n'étaient pas des concerts gratuits. En y mettant le prix, je trouverais de vrais savants qui m'aideraient à voir clair dans bien des questions de biologie, de physique ou d'histoire. Tu le comprendras sûrement, dans la rue, ma démarche est plus assurée, pour cette seule raison que j'ai toujours quelques billets de banque dans mon portefeuille. Je ne crains pas l'imprévu, et lorsque dans un café ou dans un salon, je cause de politique ou de morale, ma voix a plus d'assurance aussi. À égalité d'intelligence, l'opinion d'un millionnaire a plus de poids que celle d'un pauvre. J'invite à dîner, je fais des cadeaux. Cela n'est pas sans effet sur le jugement qu'on porte sur moi. Je ne suis plus le même dans l'esprit des autres. Et je ne te dis pas tout, car je ne veux pas aggraver ta misanthropie. D'ailleurs, j'ai réellement changé. Il m'est facile, par exemple, quand l'envie m'en prend, d'être bon pour les malheureux. J'arrive chez eux à l'improviste, et en leur racontant une histoire ingénieuse, je réussis à leur faire accepter un billet de 100 francs. J'ai constaté que 100 francs tombent toujours fort à propos. N'étant pas fatiguée, pas énervée, je ne suis plus irritable. Cela me permet de parler à ma femme et à mes enfants sur un ton très aimable. D'ailleurs, mon nouvel appartement est vaste et nous ne nous réunissons qu'à certains moments de la journée. Les pauvres qui doivent vivre les uns sur les autres s'engueulent quotidiennement. Sache encore qu'on me trouve moins laid depuis que je m'habille mieux. Et je le suis réellement moins. On dit « le temps, c'est de l'argent ». Cela n'est vrai que pour les êtres doués de volonté et d'intelligence. Mais pour tout le monde, l'argent, c'est du temps. Quand on est riche, on peut attendre, on peut hésiter, on peut réfléchir, on peut changer sa vie. J'ai l'intention de mener cet été, pendant 3 mois, l'existence des vagabonds. Cela ne te serait pas possible. Tu es condamné à faire toujours la même chose. Un pauvre qui s'est trompé de métier a commis une erreur irréparable. Écoute, Balthazar. Pour faire quoi que ce soit, il faut du temps. Il en faut pour perdre ses mauvaises habitudes. Il en faut pour se ressaisir. Si je le voulais, je pourrais consacrer mes nombreuses heures de loisirs à mon perfectionnement moral. Mon argent va me permettre de devenir vertueux. J'étais tellement agacée que je ne voulus pas en entendre davantage. Grosses et petites bêtes. Ce ne sont pas les grosses bêtes qui nous menacent, ce sont les petites. Quand l'homme, armé de sa terrible intelligence, fit son apparition à la surface du globe, le mégalosaure et le diplodocus s'étaient prudemment éclipsés. Il ne les vit jamais. Il rencontra dans ses promenades d'énormes pachydermes, mais il lui suffit de faire des mamours au mammouth pour l'apprivoiser. C'est ce que Rony nous apprend dans son admirable livre « La guerre du feu ». Le mammouth s'en alla bientôt. Il s'ennuyait. Par contre, l'éléphant, depuis des milliers d'années, continue à gambader joyeusement dans les herbes folles. Il est bien plus gros que l'être humain et il est formidablement armé. Cela ne fait rien. Plus ses défenses sont grandes, plus il a de la peine à se défendre contre la cupidité des chasseurs d'ivoire. Il est d'ailleurs foncièrement bon. Il vaut tout de même mieux lorsqu'il se trouve dans une cuisine où il se trouve beaucoup de vaisselle, ne pas lui chatouiller la plante des pieds. J'ajoute que les éléphants sont peu nombreux. Maman éléphant ne se décide jamais à éléphanter qu'après 20 mois de réflexion. L'inoffensive baleine nous fournit le busc à coulisses et l'huile de foie de morue. Je poursuis. Il est plus facile de se débarrasser d'une famille de boas que d'un ver solitaire qui s'est barricadé dans sa retraite obscure. Si, bon an, mal an, 50 000 hindous meurent sous la dent du tigre, c'est leur faute. Ils poussent jusqu'à l'absurde les principes directeurs de la société protectrice des animaux. Cela n'empêche pas que les tigres, comme les ours blancs, les lions et les panthères, se retrouvent presque tous dans nos chambres à coucher. Ou complètement aplatis, ils se sont transformés en descente de lit. Je ne dirai rien du cheval, de la vache et du cochon, dont les vertus ont beaucoup augmenté depuis qu'ils ont renoncé à la fière indépendance de leurs ancêtres. Ce qui précède suffit pour faire comprendre que l'homme est capable de vaincre toutes les grosses bêtes. Mais je ne pourrais pas parler avec autant de dédain du rat, du ver, de la sauterelle, du hanneton, de la mouche, du moustique, de la puce et du pou. Ceux-là sont dangereux, car ils sont légions. Sachez qu'il existe une ligue internationale contre les rats, lesquels font environ pour 500 millions de dégâts par an. La réputation de la sauterelle est faite, et dans nos contrées, la tête du hanneton a été mise à prix. Quant au ver rongeur, il est devenu le symbole du mal. Les puces méritent une mention spéciale. De vieilles demoiselles qui vivent en dehors du siècle sont parvenues à en apprivoiser quelques-unes et à les atteler à de minuscules voitures. Mais comme bête de trait, la puce a peu d'avenir. Il faut se méfier de son premier mouvement. C'est le bon. Rien n'égale la persévérance avec laquelle le pou pond. Mais à quoi bon insister ? L'homme n'a pas de plus dangereux adversaire que la petite bête. Et même s'il parvenait à réduire en esclavage les rats, les vers, les sauterelles, les hannetons, les mouches, les punaises et les poux, il se trouverait encore en présence de son plus terrible ennemi, l'invisible et invincible microbe. Celui-là a le génie de la désorganisation. Le génie de l'organisation, on l'a vu, ne vaut guère mieux. Mais la bête qui le possède est beaucoup plus grosse. C'est pourquoi nous saurons la vaincre, tandis que je songe avec inquiétude à l'interminable guerre que le microbe va faire à l'humanité. Nous nous saluons. Mon ancêtre, l'homme velu de l'époque préolithique. Ici, je m'interromps pour déclarer que j'ignore totalement la signification de ces mots, l'époque préolithique. Mais l'école, qui répand à foison les lumières, a fini par développer dans le public le goût de l'érudition et des termes scientifiques. Et en qualité de journaliste, je tiens à être à la mode. Je disais donc, l'homme velu de l'époque tertiaire devait mener une existence heureuse. Du matin au soir, armé de son formidable gourdin du silex, il se promenait dans la forêt maternelle où il pouvait parcourir des kilomètres sans saluer personne. Il ne rencontrait que de grosses et de petites bêtes, rugissantes ou glapissantes, inoffensives ou féroces, dont il n'avait pas à craindre les cancans. Il assommait les unes, apprivoisait les autres, et parfois, le soir, en rentrant à la caverne, il disait à sa poilue « Je t'amène un mammouth, il ne mord pas. Désormais, tu mettras un couvert de plus. » C'était le bon temps. Les dangers auxquels nous sommes exposés quand nous nous promenons dans les rues sont aussi grands que ceux qui menaçaient l'homme primitif dans sa forêt, pleine de mystères. Nous devons sans cesse penser à la bicyclette silencieuse, sournoise et homicide. le bruit que fait le tram compresseur qui approche nous empêche d'entendre celui qui vient en sens inverse. Ce n'est pas le premier tram qui tue, c'est le second. Enfin, la promptitude avec laquelle les autos changent de direction déjoue tous nos calculs. Et le piéton moderne peut être puni pour port d'armes prohibées s'il menace de son revolver l'un de ses nombreux ennemis. Mais le tragique occupe peu de place dans notre vie ordinaire. Ce qui la remplit, ce sont les petits embêtements quotidiens. Je ne veux parler que de ceux qui gâtent mes promenades. En passant sur la place, j'aperçois sur l'autre trottoir la charmante Madame Bain du Lac. Qu'aurait fait mon ancêtre préhistorique dans un cas pareil? Il aurait foncé sur la frêle créature, il lui aurait envoyé dans la nuque un coup de poing magistral, puis, second mouvement, il aurait aidé à se relever, et elle serait devenue sa servante fidèle. Car les temps préhistoriques étaient ceux où l'on ne faisait pas d'histoire. Moi, affinée et affaiblie par les siècles de civilisation, je procède autrement que mon vénérable aïeul, lequel me dégoûte. Je me demande, dois-je saluer Madame Bain du Lac ou bien la distance est-elle trop grande? Et cette indécision m'énerve. Je salue et l'on ne me répond pas. Je m'applique à conserver un air indifférent, mais au fond je suis vexée. Bon, j'ai reconnu Madame Tronche trop tard pour la saluer. Cela m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois et cette chipie prétend que lundi je l'ai faite exprès. Ce n'est pas vrai. En la regardant, je pensais à Vercingétorix. D'ailleurs, ma vue baisse. L'embêtant, c'est que demain, je rencontrerai Madame Tronche chez les F. Si j'apprenais ce soir qu'elle vient d'être arrêtée pour espionnage en faveur des Russes, je me dirais « Voilà qui arrange tout ». Attention, voici venir Monsieur Pontife. Depuis qu'il est directeur de l'usine fédérale où l'on transforme le fromage de la Gruyère en gaz asphyxiant pour les empires centraux, l'amplitude de ses coups de chapeau a diminué et il trouve juste que je salue toujours le premier. Je vais faire en sorte que mon salut soit encore moins poli que le sien. Victoire ! Le coup a réussi. J'ai porté la main avec empressement vers ma tête. Mon geste a déclenché le sien. Mais au dernier moment, j'ai immobilisé mon bras et je me suis contentée d'effleurer mon feutre pendant que le gibus du personnage se soulevait de 18 cm environ. La prochaine fois, pour plus de sûreté, je serai subitement atteint d'une myopie invraisemblable. Nouveau problème. Ai-je eu tort de saluer la bonne de mon nouveau voisin? Je la connais bien peu. Et puis, elle occupe sur l'échelle sociale un échelon inférieur. Mais si nous sommes tous frères, cette servante est ma sœur. Ce serait pour moi un argument décisif si je n'avais pas, d'autre part, le vif désir de me comporter comme se comportent les gens du monde. Mon ami Gaston, qui connaît les usages, s'est moqué souvent de mes gaffes. Ainsi, l'autre jour, il m'a conduit chez Madame T. Et parce que j'ai été d'une extrême politesse envers la jeune dame qui nous a ouvert la porte, il m'a dit furtivement « Imbécile, c'est la femme de chambre ». Il croyait que je m'étais trompée. Quant au monsieur qui s'avance vers moi, il va être bien étonné. Je ne connais pas son nom et il ne sait sans doute pas qui je suis. Nous ne nous sommes jamais adressé la parole. Or, depuis 10 ans, sans savoir pourquoi, nous nous saluons très poliment quand nous nous rencontrons. Eh bien, c'est idiot et je trouve que ça a assez duré. Je vais faire comme si je le voyais pour la première fois. Ça lui fera pour sa soirée un problème à résoudre. Voyons, à quoi peuvent bien servir tous ces coups de chapeau? Si elle n'était pas si loin, j'irais me promener dans les forêts vierges. Insincère. La puissance de l'État devenant de jour en jour plus grande et plus menaçante, nous avions résolu, les amis et moi, d'organiser, en dépit du malheur universel, un souper joyeux qui devait être, symboliquement, la protestation de l'égoïsme individuel. Des biologistes ont prouvé que tout être vivant auquel on enlève son égoïsme dépérit à vue d'œil et meurt en peu de temps. Nous devions d'ailleurs fêter notre chère Suzanne qui venait, enfin, de renoncer à la peinture cubiste pour se vouer tout entière à l'élevage intensif des lapins. Le souper eut lieu, il fut très gras, car chacun des convives avait sacrifié d'un seul coup sa carte de beurre et sa carte de fromage. Au dessert, nous priâmes Frédéric de nous faire un discours. Frédéric se leva et commença en ces termes. « Mesdames, messieurs, domestiques, je devrais être extrêmement émue car je n'ai jamais parlé devant un public aussi intelligent. Ici, notre approbation s'exprima par des hurlements sauvages. Chacun poussait son cri préféré. Les voix des femmes étaient glapissantes. Celles des hommes étaient plus belles. Seuls les domestiques souriaient respectueusement. Au bout d'une minute et demie, Gustave consentit à arrêter son mugissement obstiné et l'orateur reprit. C'est comme je vous le dis, jusqu'à présent, je n'avais pris la parole que dans des congrès, des parlements et des assemblées électorales. Eh bien, malgré cela, devant vous, dont je devine les pensées goguenardes, je n'éprouve aucune émotion. Si, dans le silence impressionnant que vous avez fait autour de moi, j'ai pu me lever sans trouble et sans timidité, c'est que je suis décidée à ne rien vous dire. Les cris d'animaux complètement renouvelés recommencèrent. Frédéric en profita pour avaler un verre de Volnay. Laissez-moi m'expliquer. Je ne dois vous adresser que des paroles sincères. Eh bien, aujourd'hui, cela ne m'est pas possible. Voilà pourquoi j'aime mieux me taire. Comprenez-moi bien. Les députés, les ministres, et tous les comédiens qui s'adressent à la foule pensent par idée toute faite. Ils servent à la foule des formules auxquelles elle est habituée et qu'elle attend. Vous, mes enfants, vous voulez que mes paroles soient l'expression exacte de ce que je pense et de ce que je sens, aujourd'hui, en ce moment-ci. Vous avez bien raison. Nous voulons être des êtres vivants et non pas des machines. Quand nous parlons à ceux que nous aimons, nous ne devons pas répéter avec une fidélité mécanique les mots que nous avons employés hier et qui sont restés dans notre mémoire. Car nous ne sommes pas aujourd'hui identiques à ce que nous étions hier. Ceux qui vivent, comme l'a montré Bergson, se renouvellent sans cesse. Mais pour résister à l'automatisme qui fera de lui une machine, l'individu doit se surveiller constamment. Nous devons tous craindre la force de l'habitude. C'est pourquoi je me lave chaque matin. Ici, il y eut des interruptions bruyantes. Moi aussi, moi. Les pieds, mon tube, dentifrice, tout nu. Frédéric hurla. Imbécile! Je veux dire que chaque matin, je fais la toilette de mon âme. Cette opération n'est pas superflue, car chaque fois, je retrouve en moi des sentiments qui sont en train de mourir, des opinions qui commencent déjà à s'écailler, et sur les guéridons de mon esprit, des fleurs de rhétorique qui, pendant la nuit, se sont fanées. Les poussières morales, les formules qui enveloppèrent naguère une pensée argente, des jugements d'une rigidité cadavérique. Tout ce qui sent la mort est enlevé. Je fais le vide dans mon cœur pour qu'il puisse grandir des amours toutes neuves. Et, dans la chambre de ma conscience, j'ôte tous les décombres qui pourraient gêner l'éclosion de mes pensées nouvelles, fraîches comme des œufs du jour. Car, la source de la vie est en moi. Et tout de suite après le coup de balai, je recommence à penser et à aimer. En un mot, chaque matin j'oublie, afin de ne pas servir à ce que j'aime du réchauffer, afin d'être toujours sincère. J'oublie ceux qui m'ont fait du mal, et ainsi je pratique le pardon des offenses. Et j'oublie également le nom de ceux qui m'ont prêté de l'argent. Cela n'a d'ailleurs aucune importance, car eux, ils n'oublient pas. Eh bien, aujourd'hui, je me suis levée trop tard et j'ai dû me rendre précipitamment à mon travail sans me laver. Toute la journée, mon âme a senti le renfermer. Mon esprit est encore plein de mes idées d'hier et ma pensée n'est pas assez fraîche pour que je vous la donne. Frédéric se rassit. Tous les convives s'approchèrent de lui et reconnurent qu'en effet, il sentait mauvais. Pour dissiper le dégoût général, on fit venir du Haut Sauterne 1904. Ils ne voudront pas s'en aller. Un jour, ma fillette taillait maladroitement un morceau de sapin au moyen d'un couteau de cuisine. Voulant lui venir en aide, je lui dis « Que veux-tu faire avec ce morceau de bois ?» Elle me répondit « Oh, tu sais, papa, sur cette terre, on ne sait jamais ce qu'on fait. » Cet enfant avait profondément raison. Un morceau de bois destiné à devenir une vache peut prendre insensiblement, entre les mains d'un ouvrier inhabile, la forme d'un bateau à rames. L'homme ne peut calculer les conséquences de ses actions. En se mariant, il ne sait pas ce qu'il fait. Et il ne le sait pas davantage lorsqu'il prend la ferme décision de rester célibataire. La complexité des problèmes qu'il doit résoudre le condamne à se tromper souvent. Cela est surtout vrai du législateur, lequel, par définition, veut s'occuper d'un tas de choses qu'il ne regarde pas. Un acte du pouvoir central provoque dans la masse gélatineuse de la nation un ébranlement dont il est impossible de prévoir les effets lointains. C'est ce que Louis XV avait sûrement compris lorsqu'il a dit « Après nous, le déluge ». Mais ne parlons que de notre pays. La patrie, qui aime tous ses enfants d'un amour égal à très peu de choses près, nous a donné des cartes de pain, afin que la ration soit la même pour tous. Puis, voyant notre air satisfait, elle a équitablement partagé par le même procédé ingénieux le beurre, le sucre, le riz, les macaronis, le lait, les graisses, le fromage et les boutons de culotte. D'ailleurs, des fonctionnaires compétents prépare dans le silence du cabinet des cartes nouvelles. Tout cela est excellent. Chacun de nous est maintenant à peu près sûr d'avoir, une fois par mois, un petit morceau de fromage pour son premier déjeuner. Mais l'avenir, comment l'État a-t-il envisagé l'avenir? J'aime à croire, pour la paix de leur âme, que nos hommes d'État sont des types dans le genre de Louis XV. Mais moi, qui suis beaucoup trop scrupuleux pour légiférer, j'ai eu l'autre nuit le cauchemar qui, logiquement, devrait troubler le sommeil de ces messieurs. Avant de me coucher, j'avais appris, en lisant le Bund, que le nombre des fonctionnaires fédéraux ou cantonaux a augmenté de 98 400 depuis le 1er août 1914. Il y a d'abord ceux qui pensent. Leur tâche est de dresser la liste des matières dont le rationnement s'imposera un jour ou l'autre. Il y a ceux qui choisissent la forme et la couleur de la carte. Puis viennent les exécutants, dont l'utilité serait nulle s'ils ne pouvaient pas remettre les cartes fabriquées au distributeur. Mais tout cela n'est encore rien. Il est indispensable d'avoir des inspecteurs qui se rendent au domicile de chaque citoyen et lui demandent s'il ne cache pas un pot de graisse dans quelque coin. Ils sont presque toujours très polis et croient l'électeur sur parole. Le 1er juillet s'ouvrira à Berne le bureau du gaspillage national, dont les 6000 employés seront chargés de faire le recensement des croûtons de pain que des citoyens prodigues, habitués au pain frais, laissent traîner derrière les meubles. Dans les temps que nous traversons, l'économie est une vertu civique et nécessite donc des surveillants. À ceux que j'ai déjà nommés s'ajoutent les dactylographes, les comptables, les vérificateurs, les pistos et les refusards. Ces derniers sont chargés de répondre sèchement aux timides réclamations des humbles. Enfin, il y a les 14 000 fonctionnaires auxquels doivent s'adresser les malades qui ont besoin d'un supplément de graisse ou d'un supplément de sucre. J'en oublie beaucoup, et en particulier ceux qui s'occupent de l'importation et de l'exportation. Pour finir, je me contenterai de mentionner le service des diabétiques, qui doit empêcher que des cartes de sucre ne soient délivrées à des malades pouvant fort bien s'en passer. On sait bien ce que ceci en ferait. Eh bien, dans mon cauchemar, j'ai vu ceci. C'était le 4 août 1919. L'entente était victorieuse et l'on venait de signer la paix. Dans une rue de Berne, devant l'immense palais où s'étaient réunis pour leur assemblée annuelle les 98 400 fonctionnaires du rationnement obligatoire, le lion populaire s'était arrêté, superbe et généreux. Ses longs cheveux épars flottaient au gré des vents. Il ouvrit sa gueule terrible, et les yeux fixés vers le palais, il rugit. « Foutez-moi le camp !» Alors, tous les fonctionnaires, les charmants dactylographes, les vieux politiciens hors d'usage, les gras et les maigres, les maussades et les joyeux, tous se mirent aux fenêtres et crièrent d'une voix formidable. « Zut ! Nous ne nous en irons pas !» Comme d'habitude, le lion populaire jugea prudent de reculer. Le bruit m'avait d'ailleurs réveillé. Je compris que je venais d'avoir un songe prophétique. On ne pourra évidemment pas mettre sur le pavé ces 98 400 malheureux. Vous verrez, ils continueront. Dans un pays démocratique, le nombre des fonctionnaires ne diminue jamais. Le désarmement universel. Il y a des cas où les partisans les plus convaincus de la paix sont obligés de se battre. Par exemple, le 1er août 1914, il eût été bien difficile à la France d'éviter la guerre. Mais ce n'est pas des guerres inévitables que je veux parler. Je songe aux guerres futures, que j'ai le droit de considérer encore comme hypothétiques. À vrai dire, je crois que les leçons de l'histoire ne servent à rien. L'humanité oubliera assez vite les fautes qu'elle a commises et les maux qu'elle a soufferts. Les grands-pères, assagis par l'expérience, ne peuvent pas empêcher les enfants de refaire les éternelles sottises. Mais qui sait, l'avenir n'est à personne. Et je n'écrirais pas cet article s'il n'y avait pas, au fond de ma pensée, une faible espérance. Le militarisme prussien sera bientôt écrasé. Cela permettra, comme on nous l'a dit, le désarmement universel. La paix régnera alors dans le monde. Mais pour que cette paix soit durable, il ne suffira pas que le président Wilson et ses collaborateurs aient agi en démocrate sincère. Il faudra de plus que les peuples aient reconnu la stupidité de quelques idées vénérables qu'on leur inculque depuis des siècles. Les individus, dont l'intelligence avide s'enrichit et se renouvelle sans cesse, ne sont pas nombreux. En général, l'homme ne contrôle guère les phénomènes de sa vie intérieure, et sa pensée repasse tout naturellement par les chemins où elle a déjà passé 100 fois. En particulier, à propos de la guerre, de la gloire militaire et du patriotisme, les éducateurs de la foule ressassent de vieilles formules dont l'absurdité apparaît lorsqu'on songe aux conditions de vie moderne. Car il y a des vérités qui, avec le temps, deviennent insensiblement des mensonges. Dans les derniers mois de l'année 1914, des littérateurs éloquents, habiles dans l'art de traiter les sujets classiques, nous ont dit que la guerre allait régénérer les hommes et que ceux-ci s'ennobliraient en refaisant le geste des aïeux, le geste martial, éternellement beau. Il paraît que nous menions une existence beaucoup trop facile et que nous étions en train de nous amollir dans les délices de Capoue. Ces moralistes croyaient évidemment que dans les ateliers, dans les fabriques et dans les mines, on passait son temps à jouer aux cartes. La guerre devait donc produire notre rénovation morale. Ah oui, ça a été du propre. N'ayant plus la sécurité, nous nous sommes mis à songer quotidiennement à notre mangeaille. Cela n'a pas donné plus d'élévation à notre pensée. Des producteurs et des négociants intelligents ont compris que le moment était venu de vendre leurs marchandises aussi cher que possible à leurs compatriotes bien-aimés. Car le renchérissement de la vie a eu plus d'une cause. Si certains intermédiaires ont touché des commissions exorbitantes, c'est pour une raison facile à comprendre. Enfin, dans cette guerre, les meilleurs représentants de la race humaine sont morts. Il nous reste des êtres désespérés, des mutilés, des orphelins, des phraseurs, des diplomates, des vieillards, des prudents et les neutres. Et puisqu'on nous a parlé de moralisation, je pourrais dire encore que la vertu perd de son prestige pour des gens qui se demandent s'ils seront encore en vie la semaine prochaine. Quant au geste du guerrier, il est infiniment moins beau qu'autrefois. Lorsqu'on parle devant eux du noble métier des armes, les naïfs ne songent qu'à Léonidas, à Winkelried, à Roland et à Bayard. Or, la pure Durandal est en train de se rouiller dans un musée historique. Dans les guerres futures, chacun des États belligérants mettra à profit les découvertes de ses chimistes officiels. Et l'on peut prévoir que les gestes des combattants seront totalement dépourvus de valeur esthétique. Non, ne soyons plus de stupides écoliers qui récitent une leçon apprise. Ne prenons plus au sérieux les littérateurs qui admirent de loin l'héroïsme des guerriers et qui, en temps de paix, laissent prudemment échapper toutes les occasions que la vie leur offre de se comporter avec courage. Ne nous laissons plus fasciner par les images d'Épinal qui nous montrent le militaire à travers les âges. Durant ces 30 derniers siècles, le militaire a abattu une besogne formidable. Il a bien mérité son repos. Habituons-nous à parler de notre patrie et de celle des autres, conformément à nos vraies croyances et à nos vrais sentiments. Nous comprendrons alors que les grandes boucheries humaines sont d'une absurdité sinistre. Mais seul le désarmement des esprits pourra en empêcher le retour. La nuit du 4 août. M'étant déguisée en femme, j'ai pu assister au congrès secret contenu dans la nuit du 4 août, en dépit des récents décrets de la police, les élégantes de notre ville. Ah, que ça sentait bon dans la crypte où nous étions assises! Et comme elle était jolie, la présidente, qui, dédaignant tout préambule, nous adressa la parole en ces termes. Mesdames, vous avez toutes entendu parler de la célèbre nuit du 4 août, dans laquelle la noblesse française, obéissant à sa naturelle générosité, a spontanément renoncé à ses privilèges. Cet exemple n'a pas été perdu, mais on est bien obligé de le reconnaître, il n'a pas été complètement efficace. il y a encore dans la société moderne des privilégiés. Étonnement sur le visage de ma voisine de gauche. Il y a encore de grandes choses à faire. Eh bien, je voudrais que grâce à votre abnégation, mesdames, cette nuit du 4 août 1918 que nous avons choisie pour notre congrès fût dans l'avenir aussi glorieuse que l'autre. Je m'explique. Bien qu'elle ne fasse pas partie du Femina Club, les femmes pauvres de notre pays sont nos sœurs. Et nul n'ignore que, par le fait de la guerre, leur situation devient de plus en plus difficile. Il n'est pas à notre pouvoir de supprimer toutes les inégalités sociales. Le rêve de l'égalité absolue a d'ailleurs été jugé chimérique par tous les sociologues. Mais si nous le voulons, nous pourrons diminuer l'amertume bien compréhensible des déshérités. Songez-y. Il suffit qu'une femme pauvre rencontre l'une de nous dans la rue pour qu'elle sente la grande différence qu'il y a entre sa vie et la nôtre. Car nous sommes, avec trop d'ostentation, avec trop d'éclat, les favorites du sort. Je ne vous demande pas de renoncer à votre existence facile. On n'a pas le droit de pécher aux autres la sainteté quand on la juge trop difficile pour soi-même. Mais nous pourrions être heureuses avec plus de discrétion. Nous pourrions renoncer aux signes extérieurs de notre fortune. En définitive, je viens vous demander un grand sacrifice. Que chacune de nous se contente des grâces que la nature lui a données et s'habille tant que durera la guerre, comme s'habillent les pauvres. Ici, un brouhaha général interrompit la gracieuse présidente. Je me mis à observer attentivement mes compagnes. Beaucoup de ces dames étaient scandalisées. Leurs protestations eussent été moins violentes si on leur avait proposé de se nourrir désormais avec une frugalité ascétique. Seules quelques jeunes femmes, plus jolies que les autres, souriaient. Elles étaient conscientes de leur pouvoir et elles ne craignaient rien. Je ne pus m'empêcher de me dire que la présidente elle-même, vêtue de guenilles, aurait un charme terriblement captieux. Le tumulte devenait de plus en plus fort. Il était évident que la perspective du sacrifice suprême déplaisait à la majorité. Lorsque la présidente, visiblement découragée, fut parvenue à rétablir le silence, elle dit « Qui est-ce qui demande la parole ?» Animée d'une audace soudaine, je me levai en criant « Moi !» Tous les regards se dirigèrent de mon côté. D'une voix que je m'appliquais à rendre féminine, je commençai ainsi. « Mesdames, je crois que le discours de notre sympathique présidente n'a pas été compris. Ce sont les apparences de la pauvreté qu'on nous demande de revêtir. De même que certaines femmes du peuple portent de faux diamants, l'extrême simplicité de notre mise sera trompeuse. En somme, on nous propose une mode nouvelle pour l'hiver prochain. Un costume complet en guenilles de Bruges, confectionné par notre plus habile couturière, pourrait être tout à fait gracieux. Je me représente aussi sans déplaisir une jupe effilochée à l'andalouse et ornée de quelques reprises au point d'Angleterre. Vous comprenez, d'autre part, que si nous nous décidons à porter une robe trouée, ce sera tout simplement une robe à jour. Et si l'on y aperçoit, ça et là, une tache, cette tache aura été faite par l'un de nos peintres cubistes à la mode. Sachez, pour finir, que j'ai vu chez Bonnard une étoffe nouvelle, à 52 francs le mètre, dont la nuance gris-misère est exquise. Dès que je me tus, des applaudissements frénétiques éclatèrent. Ma voisine de gauche, enthousiasmée, me demanda la permission de m'embrasser. Très troublée, je me demandais, va-t-elle s'apercevoir de quelque chose ? lorsque tout à coup, la police antigrippale fit irruption dans la crypte. Ne voulant pas être puni pour port illégal de la jupe, je m'esquivai prestement. Les éternuements. On ne peut pas toujours parler des Allemands, parlons donc des éternuements. L'éternuement remonte à la plus haute antiquité. Les Assyriens, les Phéniciens et les Chaldéens éternuaient déjà. Lorsque César eut pris la décision de franchir le Rubicon, il éternuait avec force. Dans les manuels d'école, on remplace cet éternuement par la formule célèbre « Alea iacta est ». Mais nous savons aujourd'hui que chaque grand personnage du passé avait à son service des hommes de lettres chargés de fabriquer des mots historiques. L'éternuement n'est pas le propre de l'homme. Les chiens et les chats éternuent. L'éternuement du cochon est dégoûtant. Lorsque l'éléphant du Zambèze se met à éternuer, le voyageur, attardé sur la plage, sentant la mort passer, frissonne atrocement. Car, paraît-il, à côté de cette trompette-là, celle de Jéricho n'était qu'une clarinette. Les poissons n'éternuent jamais. Mais la liste complète des animaux qui savent éternuer n'a pas encore été dressée. La baronne Staff, dans son ouvrage classique sur les bonnes manières, dit qu'un éternuement, même bruyant, est moins inconvenant qu'une légère éructation. Mais elle blâme les gens qui mettent dans leurs éternuements autant d'énergie que possible. Cela est d'ailleurs dangereux. Mon ami Melchior en est mort. Il est dangereux aussi de vouloir à toute force empêcher l'éternuement qui allait se produire. Cette imprudence a hâté le départ de mon ami Gaspard. Les gens très bien élevés doivent consentir, comme les autres, à se livrer à ces manifestations sensationnelles, dont ils ne sont d'ailleurs pas responsables. Le dictionnaire définit l'éternuement de la manière suivante. Mouvement subi et convulsif du diaphragme, par suite duquel l'air est expiré brusquement par le nez et par la bouche. Cette définition n'explique pas tout. Comment se fait-il que j'éternue lorsque, en été, je regarde le soleil? J'ai gagné aussi plus d'un pari en éternuant au commandement. Les nerfs du nez jouent sûrement un rôle dans le phénomène. Que ceux qui, un jour ou l'autre, ont éternué 24 fois de suite, ne se vantent pas. Il y a une vingtaine d'années, une revue médicale citait le cas d'un malade qui avait éternué pendant 36 heures sans s'arrêter. Les éternuements de ce malheureux se suivaient à 6 secondes d'intervalle. Il y en eut donc 21 600 environ. Il y a des gaillards devant lesquels on se sent petit. Le patient, dans ses courts instants de répit, avalait un peu de bouillon. Sa bonne humeur persista d'ailleurs jusqu'au bout. Il plaisantait avec les curieux qui venaient l'observer par la porte entrouverte. Quand on a les yeux bandés, on reconnaît facilement le sexe de la personne qui éternue. L'homme éternue avec beaucoup plus d'autorité que la femme. Un savant allemand est en train de rechercher si, en plaçant dans toutes les rues des accumulateurs spéciaux, on ne pourrait pas recueillir et utiliser toute l'énergie que fournissent les passants qui éternuent. Chacun serait obligé, sous peine d'amende, d'éternuer dans l'orifice de l'appareil. On a analysé le gaz qui est expulsé par un éternuement. Il ne consiste pas exclusivement en air atmosphérique. On y trouve aussi un peu d'hydrogène. Mais il faut voir une très exceptionnelle anomalie dans le cas de ce prisonnier allemand pris en 1916 près de Verdun et qui, en éternuant, projetait des gaz asphyxiants. On le fusilla par mesure de prudence. L'éternuement est international. On n'éternue jamais avec un accent étranger. Ai-je tout dit ? On n'a jamais tout dit. Pestalozzi n'a jamais éternué. Un éternuement est un avertissement. Il annonce un rhume probable. On peut donc dire qu'un homme qui éternue en vaut deux. Je vous laisse le soin d'étudier la fréquence des éternuements dans ses rapports avec l'âge, le sexe, la profession et la nationalité. Les mots « éternuer » et « éternité » ont la même origine. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi. Ne soyons pas trop intelligents. L'autre nuit, ne dormant pas, je rêvais au pied des monts. Pour tuer le temps, j'ai essayé de me représenter la société future, telle que la préparent fiévreusement les amis du progrès. Et j'ai été effrayée. Voici ce que j'ai vu. Depuis longtemps, on avait fondé des écoles où les enfants ne s'ennuyaient pas et où ils contractaient pour toujours l'habitude du travail intellectuel. L'homme ne ressemblait plus du tout à la bête humaine des temps primitifs. Il était sans brutalité et il goûtait le plaisir de l'esprit bien plus profondément que tous les autres. Durant ses heures de liberté, il ne faisait pas autre chose que de contempler, d'admirer, de réfléchir et de discuter. Mais que dis-je, ce qui lui plaisait plus que tout le reste, c'était de créer des œuvres d'art et d'élaborer de nouvelles théories philosophiques. Donc, dans cette société que j'entrevoyais, tous les citoyens avaient une vie intellectuelle intense. Il y avait même tant d'exaltation dans la vie intérieure de l'individu que les passants allaient fréquemment se cogner contre les becs de gaz du monde extérieur. Dans mon songe prophétique, je fus d'ailleurs le témoin d'un accident beaucoup plus grave. L'homme du rouleau compresseur, ayant sorti de sa poche le calepin, où il avait l'habitude de noter ses pensées de génie, sa formidable machine, qu'il ne surveillait pas, écrasa un garçon pâtissier qui était en train de composer une poésie. Dans ce monde meilleur, le nombre des mécontents était fabuleux. La devise des prolétaires conscients était « des loisirs, encore des loisirs, toujours des loisirs ». Et ils avaient effectivement beaucoup de loisirs pour satisfaire le noble goût de la méditation qu'on avait développé en eux. Trop affinés, ceux qui étaient chargés du travail manuel ne mettaient la main à la pâte qu'avec un profond dégoût. Et tout allait mal, car les hommes travaillant trop peu, on manquait de tout. Les libraires faisaient faillite les uns après les autres, car chaque citoyen ayant du génie, on s'intéressait trop à ses propres idées pour accorder beaucoup d'attention aux idées des autres. D'autre part, on ne pouvait plus compter sur la bêtise de la foule. C'est-à-dire qu'on était privé du seul ciment social qui rend possible une opinion publique cohérente. Enfin, et c'était la chose la plus grave, l'homme ne savait plus attendre. C'était à prévoir. Le raisonneur qui ne manie que des idées ne rencontre jamais la résistance de la matière. Et il s'impatiente lorsqu'il constate que ses vérités, si logiquement démontrées, et d'une beauté si éloquente, n'accélère pas le cours des choses. Je compris l'erreur des amis du progrès. Un homme très intelligent est toujours un égoïste qui, dans la solitude, sait tirer de son cerveau des jouissances profondes. Il est vrai que le fruit de ses méditations a parfois un peu d'utilité pour la collectivité. Mais il n'est peut-être pas bon que les êtres très intelligents soient nombreux. Pour que l'humanité civilisée d'aujourd'hui continue à vivre, il faut que chaque année un labeur écrasant soit accompli. Pour qu'il y ait des familles nombreuses, il faut qu'il y ait chez certaines femmes beaucoup d'abnégation. On ne peut pas être mère si l'on est incapable d'attendre. Seuls des élèves dont la pensée est endormie peuvent faire pendant des années, du matin au soir, dans les champs, dans les fabriques, dans les mines et ailleurs, la même besogne monotone et fatigante. En 1910, on a extrait du sol 12 800 millions de quintaux de charbon. Et il faut aussi des nombres immenses pour exprimer en quintaux la production annuelle de fer, celle du blé et bien d'autres productions encore. Pour produire tout ce dont l'humanité actuelle a besoin, quelques centaines de millions de nos semblables doivent vivre comme des bêtes de somme. Pour que la vie continue à la surface du globe, il ne faut pas que les êtres soient trop affinés. En faisant de son cerveau un instrument de plaisir, l'homme moderne condamne peut-être sa race à une disparition prochaine. La vie deviendrait beaucoup plus facile si nous nous mettions à nous aimer les uns les autres. Mais on ne peut plus compter, semble-t-il, sur cette solution du problème. Et le moment est sans doute venu de planter au bord de la route où passe le char du progrès des poteaux avertisseurs portant les mots « ralentir »,« danger »,«